Hoy es la fiesta de los abuelos de Jesús.
Je pense qu'on peut faire mieux. Ça inclut, à mon avis, Sport Canada.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Une autre journée où on en apprend davantage sur le scandale sexuel chez Hockey Canada. Pendant la deuxième journée d'audience aujourd'hui, il a été dévoilé que Sport Canada avait été mis au courant des allégations, mais on va y revenir plus tard. Mais d'abord, moins de 24 heures avant l'arrivée du pape François à Québec, les dernières préparations sont effectuées, donc tout doit être prêt pour accueillir le Saint-Père qui poursuivait sa visite en Alberta aujourd'hui.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
Alors, plus de 40 000 personnes ont participé à la messe publique du pape François aujourd'hui au stade du Commonwealth à Edmonton. Il a livré un sermon sur le thème de l'enfance et de la famille à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, qui est grand-mère de Jésus. C'est un jour particulièrement important pour les catholiques autochtones. Le pape se rendra ensuite au lac Sainte-Anne, au nord-ouest d'Edmonton, pour participer au pèlerinage annuel qui rassemble des dizaines de milliers de participants autochtones. Et justement, pour un voyage comme celui-là du pape, les autorités ne négligent donc aucun détail, surtout lorsqu'il est question de sécurité. On va en parler avec l'expert en sécurité nationale, Michel Junot-Katsuya. Bonjour, Michel.
Bonjour, Sabrina.
Donc, d'abord, on sait que ça doit être monumental, un peu comme organisation. Il y a combien de corps policiers qui participent à la sécurité du voyage du pape?
Oh, plus d'une vingtaine, littéralement. Ça dépend à quel endroit on va se trouver, parce que selon les territoires ou les régions où on travaille, la GRC peut avoir une plus grande importance que d'autres. Mais le corps policier qui gère et coordonne le tout est principalement la GRC. C'est le corps fédéral qui va prendre charge de l'ensemble de la sécurité. Pour ce faire, il doit aller chercher la collaboration aussi des corps policiers locaux. Mm-hmm. Si on parle de la région de Québec, à titre d'exemple, il va y avoir évidemment la police de ville de Québec et aussi la Sûreté du Québec qui vont contribuer et travailler. Mais il va y avoir un renfort substantiel d'officiers de la GRC qui vont venir de d'autres provinces et qui vont accompagner la délégation de papa.
Justement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit aller faire, par exemple, du repérage avant? On va déjà poser des barrières de sécurité. Comment ça fonctionne?
C'est un travail de longue haleine. On ne prépare pas ça à la dernière minute. Le pape est quand même une personnalité publique et politique de haute importance. Et surtout que sa venue n'est pas, disons, légère. C'est une venue qui vient pour faire des excuses. Donc, il y a beaucoup d'émotions quand même dans la foule. Certains sont heureux pour cette réconciliation, mais il y en a peut-être qui voudraient garder une rancune. Alors, pour la planification, on s'est préparé littéralement des mois à l'avance. Dès que l'annonce a été faite, la GRC s'est mise au boulot et a amené à contribution aussi les services de renseignement canadiens, les corps policiers et la défense. Il y a ce qu'on appelle la garde rapprochée dans un premier temps. Ça, c'est la garde, c'est les gens qui sont tout autour du pape, comme on le voit ici sur les images, et qui l'escortent autant avec sa pape mobile ou encore à pied, parce que le Saint-Père aime faire aussi des bains de foule. Et ça, c'est le plus dangereux.
Parce que là, à ce moment-là, les bains de foule, est-ce que c'est là qu'on craint le plus pour sa sécurité, lui qui aime justement aller rencontrer les citoyens, là?
Vous avez tout à fait raison, c'est là qu'il est le plus vulnérable. Parce que si on veut faire une attaque sur le convoi, il faut quand même être préparé avec des explosifs quand même assez importants. On le sait qu'il a une voiture blindée, il va avoir aussi une protection supplémentaire. C'est très, très, très difficile. Mais à partir du moment que le Saint-Père est en exposition devant le public, si vous me permettez l'expression, cette vulnérabilité peut être exploitée par un tireur embusqué ou par quelqu'un qui va se faufiler dans la foule, comme on l'a vu avec Jean-Paul II il y a plusieurs années passées.
Et peut-être en quelques secondes, nous dire combien ça coûte aux Canadiens d'accueillir le Saint-Père comme ça pour ce voyage de plusieurs jours?
Eh bien, l'archevêché du Canada a mentionné qu'ils allaient couvrir une partie des dépenses pour la sécurité, mais le Canada va dépenser pas loin de 100 millions de dollars pour toute cette sécurité-là. Juste sur les sites où on va aller avec le Saint-Père, mm-hmm. on va dépenser près de 30 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup énorme, d'argent pour des excuses.
C'est énorme. Merci beaucoup, M. Michel Junot-Catuyat, d'avoir été avec nous ce soir.
Toujours un plaisir.
Et maintenant, des dirigeants de Sport Canada ont dû se défendre hein, aujourd'hui d'avoir failli à leur devoir dans la foulée du scandale entourant un présumé viol collectif commis par des joueurs de Hockey Canada. Ces dirigeants ont comparu aujourd'hui, en fait, devant le comité permanent du patrimoine canadien. Je vais en parler avec mon collègue Louis-Philippe. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Sabrina.
Donc, on a appris qu'ils étaient au courant des allégations, en fait, depuis juin 2018.
Depuis 4 ans, les dirigeants de Sport Canada savaient, les dirigeants qui s'occupent, entre autres, de financer les fédérations sportives. Et pendant 4 ans, on n'a jamais jugé bon de contacter Hockey Canada pour faire des suivis, avoir davantage de détails sur ces allégations de crimes sexuels. On n'a pas jugé bon non plus de contacter les différents ministres de l'époque pour les informer de l'existence de ces allégations d'agression sexuelle. Donc aujourd'hui, Sport Canada s'est défendu en disant qu'on n'avait pas tous les détails sur l'ampleur de ces allégations. On n'avait pas non plus le pouvoir d'enquêter. Mm-hmm. Mais les partis d'opposition ont dit aujourd'hui qu'il y a un sérieux examen de conscience qui devra être fait chez Sport Canada. Voici la ministre fédérale des Sports.
Je pense qu'on peut faire mieux. Puis quand j'ai dit que tout le monde dans le système sportif canadien devait réévaluer leur façon de faire, ça inclut, à mon avis, Sport Canada. On doit être mieux outillé, Sport Canada doit être mieux outillé pour être capable de faire les évaluations concernant l'atteinte des objectifs.
Pour ce qui est d'Hockey Canada, oui, la ministre Saint-Onge aujourd'hui qui n'a pas demandé explicitement la démission des dirigeants d'Hockey Canada, mais disons, soulever de sérieux doutes sur leur leadership.
Ouais. Et là, on se souvient que Hockey Canada avait rapidement mandaté une firme externe pour mener, en fait, une enquête indépendante. Et là, il y a l'avocate responsable de cette enquête qui est venue témoigner là aujourd'hui.
Voilà, on a appris 3 choses importantes. Tout d'abord, c'est cette avocate qui a, disons, suggéré très fortement à Hockey Canada d'appeler les policiers dès le 19 juin. Hockey Canada qui aurait suivi cette indication, mais seulement en soirée de cette même journée. Deuxième chose qu'on a appris, la firme qui a émis des recommandations à Hockey Canada dès 2018. Mais c'est impossible d'avoir les détails sur ces recommandations parce qu'Hockey Canada a refusé aujourd'hui d'enlever le secret professionnel. Donc, on ne sait pas si Hockey Canada a agi depuis. Et troisième chose, bien, l'enquête indépendante qui se poursuit, la victime qui y participe. Mais il faudra évidemment convaincre les 19 joueurs d'y participer. Il y a seulement 10 de joueurs qui ont participé lors de ce premier volet de l'enquête.
I appreciate that it's very frustrating to Canadians that we don't have an outcome yet. What I can say is justice takes time. And my investigation is taking time, but justice and fairness sometimes take time.
Sabrina, donc les dirigeants de Hockey Canada, oui, qui vont comparaître demain et on risque aussi de les questionner sur ces allégations de viol collectif qui auraient eu lieu du moins en 2003 également.
Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
Un Québécois a perdu la vie dans une expédition pour atteindre le sommet du K2. C'est la 2e plus haute montagne de la planète. Une triste histoire. Hein. C'est situé donc au Pakistan. Pour en parler avec nous, Étienne Fortin-Gauthier. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Sabrina.
Donc, la victime, en fait, Étienne, est Richard Cartier, 61 ans. C'est un médecin là, qui vivait dans les Laurentides.
Oui, un médecin fort apprécié, respecté, qui avait décidé donc d'escalader cette montagne-là, qui fait environ 7100 mètres. En tout cas, lui, il s'était rendu au 4e camp. Et c'est lors de la descente, qui est décédé. On n'a pas les circonstances exactes, mais on sait qu'il est décédé en compagnie d'un autre Australien. Il était porté disparu depuis le week-end. Il y avait une grande opération de secours qui avait été lancée. La nouvelle qui a d'abord été rapportée, la nouvelle de son décès par l'Himalayan Times, confirmée par la famille du défunt sur Facebook aujourd'hui.
Et Étienne, c'est un décès qui choque évidemment ses collègues en santé, sa famille et le monde de l'alpinisme.
Absolument. Sur les médias sociaux, plusieurs hommages, notamment de Jacques Lamontagne, qui décrit son ami comme un alpiniste exemplaire, partenaire d'escalade extraordinaire. Richard était toujours souriant, drôle, de bonne humeur. Il y a également notre collègue Alain Badeboncoeur qui a étudié la médecine avec lui, lui a rendu hommage disant qu'il aimait toujours repousser les limites.
Et il faut dire que le K2, là, c'est un sommet qui est reconnu comme étant extrêmement dangereux. Là.
Oui, il y a seulement 400 personnes qui ont été en mesure d'atteindre son sommet et 100 autres qui sont décédées lors de l'escalade. Il faut mentionner qu'il y a une Québécoise la semaine dernière qui a réussi à gravir le K2, Marie-Pierre Desharnais. Elle a dit que c'était un défi très exigeant, hyper intense. Mais c'est une montagne très dangereuse. Et même les alpinistes la semaine dernière qui étaient lors de cette ascension disaient qu'ils étaient très fatigués, que c'était une expédition à haut risque. Et là, on voit ce décès d'un alpiniste québécois et médecin. Donc, triste nouvelle aujourd'hui.
Exactement. Extrêmement triste. Merci beaucoup, Étienne.
Merci.
Et la fonderie Horn à Rouyn-Noranda a proposé en mai d'apaiser ses émissions d'arsenic à un seuil 20 fois plus élevé que la norme provinciale. C'est ce qu'a révélé le gouvernement Legault, qui dit avoir envoyé l'entreprise à la table à dessin. La fonderie Horn, qui appartient à la multinationale Glencore, rejette actuellement jusqu'à 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Elle a indiqué au gouvernement Legault qu'elle pourrait à l'avenir le limiter en ses émissions à 60 nanogrammes par mètre cube, alors que la limite québécoise est de seulement 3. Et le Fonds monétaire international dresse un portrait plutôt sombre de l'économie mondiale dans son dernier rapport publié aujourd'hui. Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance économique et met en garde contre plusieurs facteurs de risque qui pourraient entraîner une des crises économiques les plus graves depuis 50 ans. La guerre en Ukraine, la lutte contre l'inflation et le resserrement des conditions financières sont particulièrement préoccupants. Montréal devrait voir sa population diminuer de 180 000 résidents d'ici 2041. Ça, c'est selon les dernières prévisions de l'Institut de la statistique du Québec. Cette diminution, bien, ça devrait se faire au profit de plusieurs régions situées près des grands centres. Par exemple, dans les Laurentides, on prévoit une hausse de 21 % sur 20 ans. Dans Lanaudière et pour la Montérégie, ce sera plus de 16 %. Et la ville de Mirabel, bien, qui est située sur la rive nord de Montréal, vit carrément cette réalité depuis les dernières années. La population y a explosé. Donc, on va en parler avec Patrick Charbonneau, qui est le maire de cette municipalité des Laurentides. Bonsoir, M. Charbonneau.
Bonsoir.
Donc, je lisais ça tantôt. Là, selon le dernier recensement en 2021, parmi les 19 plus grandes villes du Québec, c'est Mirabel qui a connu la plus grande augmentation de sa population en seulement 5 ans. Comment vous expliquez un peu l'attractivité de la ville de Mirabel?
Écoutez, nous, notre force, c'est vraiment d'offrir une qualité de service qui va vraiment au-delà de ce qui est offert généralement, mais c'est surtout que c'est offert à un coût qui est plus que raisonnable. Donc, on a vraiment un attrait généralement pour les premiers acheteurs, les jeunes familles là, qui voudraient vraiment aller, qui ont le rêve de l'accessibilité de la première propriété là, avec ce qu'on peut offrir là, pour ce genre de citoyens.
Mm-hmm. Et là, on parle d'une augmentation de 21 % en 5 ans, donc c'est plus de 10 000 personnes quand même. Comment vous faites pour vous assurer que les installations suivent, par exemple, l'aqueduc et les services publics?
Écoutez, ça, c'est le défi qu'on a, nous, au sein de notre ville. Évidemment, on essaie de travailler beaucoup en amont là, pour être capable de desservir tout ce beau monde pour lequel nous sommes très accueillants et nous sommes mm-hmm. heureux de les voir arriver. Donc, évidemment, là, on a des réserves spéciales là, qui servent, là, entre autres, là, pour être capable d'aller, non pas impacter les citoyens qui sont déjà implantés, mais vraiment d'être capable de pouvoir agrandir là, tous nos services et nos infrastructures.
Bien oui, puis au niveau, bon, l'Institut de la statistique du Québec prévoit que la population des régions, ça va continuer d'augmenter, alors que celle de Montréal, bien, ça va stagner. Ça, est-ce que ça vous surprend?
Ce qui m'a surpris, c'est mon petit gars qui vient d'arriver.
On le salue.
C'est parce qu'il y a une dent qui branle. Hein? Fait que là, il est comme nerveux, c'est sa première. Donc,
la fée des dents va peut-être passer ce soir. Là.
Ouais, la conciliation travail-famille. Voilà. Je m'excuse. Votre question, désolé.
Non. En fait, est-ce que ça vous surprend en fait que la population de Montréal stagne pendant que celle des régions en fait explose là, depuis les dernières années?
Bien, je pense qu'avec la pandémie, on l'a vu, les gens ont vraiment voulu aller chercher une espèce de plus grand territoire, ont redécouvert la nature. Quand on regarde comme une ville comme Mirabel, bien écoutez, là, sur notre territoire, on a quand même 106 parcs espaces verts aussi. Donc, on vient vraiment offrir quelque chose que les gens ont redécouvert. Donc, à ce moment-là, c'est certain là, qu'on voit qu'il y a un mouvement vers les couronnes pour que ce soit au niveau de la grandeur du terrain ou tout ce qui va se retrouver là, comme service de proximité.
Juste rapidement, peut-être en quelques secondes, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation quand même des prix des résidences à Mirabel, étant donné son attractivité?
Bien, écoutez, c'est certain que ça va avec l'offre et la demande. Nous, notre...
Il est mignon! C'est quoi son nom?
C'est le petit Maël, oui.
Tu vas être rendu la vedette.
Ben oui, je lui ai dit je donnerais des bonbons, ça ne pas me déranger, mais il faut croire que ça n'a pas marché.
Les bonbons.
Non, c'est ça. Ben, écoutez, dans le fond, c'est ça. On a une attractivité, puis on espère continuer dans ce sens-là.
Effectivement. Et M. Charbonneau, merci. Merci beaucoup à Maël pour sa présence pendant l'entrevue. Bonne journée.
Il fait dire au revoir.
Bye-bye. Donc maintenant, est-ce que ça vous arrive parfois de vous demander si le contenant que vous avez, bien, c'est recyclable? C'est sûr que c'est pas tout le temps très, très clair. Et il y a le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a lui-même admis que c'était difficile de s'y retrouver. Il veut rendre les indications plus claires en lançant une consultation. Et pour en discuter, j'accueille Grégory Pratt de la coopérative Tricentris. Bonjour, M. Pratt.
Bonjour.
Donc là, vous n'avez pas d'enfant là, en arrière de vous, non, à côté de vous. Non, c'est ça, on est correct.
Tout à fait.
Donc, vous avez parcouru, en fait, le document publié par le cabinet du ministre. Est-ce que pour vous, le ministre est sur la bonne voie avec les changements qu'il va apporter?
Bien, en fait, cette annonce-là, ça me faisait penser à mon ami Vincent. C'est un magicien. Hein?
Okay,
les
oui.
magiciens, hein, des fois, ils nous demandent de regarder la main droite, mais oui. C'est à la gauche que la magie opère. Fait que j'espère que c'est pas de la poudre aux yeux.
Oui.
L'idée, c'est vraiment de nous poser des questions, d'entrer dans le débat, de discuter. Fait que oui, ce bout-là est intéressant, mais j'ai lu les 45 pages, puis j'avais quand même beaucoup, moi-même, de questions.
De questions, effectivement. Puis je veux dire, si vous avez des questions, imaginez les gens comme moi qui se retrouvent à tenter d'essayer de recycler des objets. Puis par exemple, lorsqu'on voit, je sais pas moi, les espèces de trois flèches, est-ce oui. que ça veut dire que c'est toujours recyclable? Ou des fois, il y a comme
non,
des exceptions. On peut mettre ça dans le bac bleu ou
bien,
pas?
Bien, c'est ça. C'est que ce logo-là, en fait, mm-hmm. qui est le triangle fléché, vient nous indiquer que c'est potentiellement recyclable. Le mot-clé ici, c'est potentiellement.
Mais pourquoi potentiellement?
Bien, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du comportement en centre de tri. Ça dépend des débouchés aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter? Il faut savoir qu'une fois que vous le mettez au bac, ça vient au centre de tri. C'est trié, la matière est séparée. Mais il faut que quelqu'un achète cette matière-là. Il faut qu'il y ait un débouché. Si vous achetez jamais de produits faits au Québec, bien, ça se peut qu'il y ait moins de recyclage au Québec.
C'est ça.
Si vous achetez pas, par exemple, de produits avec du contenu recyclé, bien, ça se peut que ça soit difficilement recyclable.
Donc, dans le fond, quand le ministre dit qu'il veut tenter d'uniformiser, en fait, le recyclage à travers le pays, ça va être difficile.
Bien, moi, je me suis posé des grandes questions parce qu'il ne faudrait pas être à la remorque des provinces qui ne sont pas au même niveau que nous. Par exemple, l'Alberta ou tous les territoires du Nord, c'est des grandes distances. On parle rarement de transport. Puis d'ailleurs, dans les 45 pages, on n'a jamais parlé de transport. Mais le transport est un enjeu. Si vous avez une matière qui vaut 500 $ mm-hmm. puis que ça vous coûte 2000 $ pour l'amener à Montréal...
Ouais.
Bien, ça fait pas un plan d'affaires
ça
qui va fonctionner.
Ça
donc,
non,
ça va pas
ça.
Durer longtemps. Donc, il y a un peu tout ça. Fait que l'étiquetage, il y a raison.
Oui.
C'est le Far West.
Oui.
Moi, je gère la page Facebook de Tricentris. Là, je reçois vraiment c'est beaucoup ça. De questions chaque
ben
jour.
Oui, mais c'est normal.
Les gens disent, bien, regardez mon emballage, ça dit, ou mon contenant, ça dit c'est que ça. C'est recyclable. Puis là, on l'explique, tout ça. Fait que je pense que c'est plus la sensibilisation sur laquelle on devrait travailler. Et en amont, la conception des contenants et des emballages.
Oui.
Je pense que c'est ça qui est l'éco-conception, d'après moi, c'est le nerf. Là.
Que ce soit plus clair, en fait, effectivement. Puis justement, vous dites des fois, bien, les gens, ils sont confus, je fais partie du lot. Qu'est-ce que vous avez retrouvé, peut-être, d'inusité au niveau du recyclage en quelques secondes?
Ah, bien, par exemple, une tête d'orignal, des animaux morts, des couches, on parle de plusieurs centaines par jour. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des citoyens savent l'importance de mettre du respect dans leur bac.
Alors,
et ils nous
moins.
Connaissent, ils nous écrivent.
C'est ça.
On est là pour aider.
Pour s'assurer quand même.
Tout à fait.
Bref, ça reste un casse-tête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Une délégation de marcheurs représentant 5 Premières Nations autochtones est arrivée à Wendake ce soir après avoir parcouru 250 km à partir de Mastoyache. Les marcheurs se rendront aux plaines d'Abraham en vue de la visite du pape François, de qui ils attendent dans des excuses officielles pour la participation de l'Église catholique dans la création des pensionnats. Et c'est dans ce contexte de visite papale hein, que le festival Présence autochtone a dévoilé sa programmation ce matin. La 32e édition qui se tiendra du 9 au 18 août mettra en vedette notamment la soprano Inuk Deanta Edmonds et la chanteuse Beatrice Deer. Le festival est l'occasion parfaite pour s'imprégner des traditions et de l'art autochtone, comme nous le rapporte Jérôme Scalia.
Alors, il y a des gens qui actuellement sont dans le repentir pour tourner une page du chapitre antérieur. Nous, nous sommes dans le futur parce que nous ouvrons avec le sourire de la jeunesse et l'énergie des TikTokers, le futur des Premières Nations.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Xavier Watsou et je suis Abénaki d'Odanak. Je suis enseignant au secondaire en art dramatique. Je suis également militant Abénaki et TikToker à mes heures. Je vous annonce que je suis l'hôte du festival et je serai également le maître de cérémonie de tous les spectacles qui vont avoir lieu sur la place des festivals du 10 au 15 août.
Oui, alors Xavier est un TikToker autochtone, mais c'est aussi un éducateur important puisqu'il il enseigne, c'est un enseignant. Et c'est la réflexion qui se fait beaucoup dans les cercles autochtones. Il ne faut pas perdre la jeunesse. Des fois, on est tenté de démissionner comme autochtone. Hein? Alors, donc, si on veut que les cultures, les arts, l'identité, les nations survivent, c'est sur la jeunesse que ça repose et surtout qu'elle est fort nombreuse. Hein? Alors, donc, c'est important de s'en occuper. Le Festival Présence autochtone est justement un lieu qui permet l'expression des artistes et particulièrement la voix des jeunes artistes qui mènent le bal pour ce qui est de l'avenir identitaire de nos nations.
Fierté Montréal a présenté aujourd'hui sa programmation. L'événement va se dérouler du 1er au 7 août. On pourra y voir les spectacles de Diane Dufresne, Ariane Moffat et Cœur de pirate notamment. Pour la première fois, les spectacles seront présentés à l'esplanade du Stade olympique et non dans le village.
On avait besoin de la place pour 25 000 personnes. Ça ne rentrait plus. Il n'y a pas de place dans le village pour 25 000 personnes. Malheureusement, ça n'existe juste pas. Donc, on a fait une analyse, on a regardé où sont les endroits à Montréal où on peut aller. Il y a différentes options et le Parc olympique, pour nous, était l'option la plus évidente. C'est un endroit qui est facilement accessible, qui est aussi facilement adaptable, ce qui était très important pour nous, c'est un festival différent.
J'accueille sur le plateau mon collègue qui va animer le 22h ce soir, Étienne Fortin-Gaultier. Salut Étienne. Bon, là, on va parler en Californie. Il y a le Oak Fire qui progresse toujours, et ça très rapidement, et menace en fait le parc national de Yosemite.
Bien oui, un immense incendie qui continue là, de progresser. On est rendu à 7000 hectares de forêt détruits. Puis les pompiers, même s'ils sont 2500 à lutter contre les flammes, on dit qu'ils sont encore dépassés par les événements. Il y a plusieurs citoyens qui sont évacués et il y a des flammes immenses de 30 mètres de haut, même dans certains secteurs. On voit les images, ça frappe l'imaginaire. Mm-hmm.
Effectivement. Puis d'ailleurs, bien, il y a plusieurs feux un petit peu partout dans le monde actuellement. Nous traversons un épisode caniculaire au cours des derniers jours. En Europe, aussi, on regarde ça. Est-ce que ça doit nous inquiéter plus que d'habitude?
Bien, c'est la question qu'on va poser à Claudelle Pétrin-Desjardins, notre collaboratrice qui est une docteure spécialisée en environnement. Donc, elle va nous donner ses lumières sur tout ce qu'on est en train de vivre cet été avec ces météos extrêmes là, peu partout.
Donc, Claudelle Pétrin-Desrosiers qui sera avec toi ce soir. Également, une autre entrevue aux 22h.
Oui, avec le directeur de la Fierté Montréal qui va venir nous visiter ce soir alors que la Fierté déménage ses pénates du village vers le Stade olympique pour les grands spectacles. Donc, on va ça avec elle.
Parfait. Merci beaucoup, Étienne. Donc, voilà, Michel sera de retour demain. Passez une bonne fin de journée.